Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Salut les fous du volant, bienvenue pour un nouvel épisode de votre émission consacrée à la Formule 1. Je suis Gilles Pellaposta et avec Stéphane Vrignot, on vous propose de revenir sur la 16e épreuve du championnat du monde 2021, le Grand Prix de Turquie. Stéphane, t'es prêt pour retourner sur cette piste qui n'en finit jamais de sécher?
Oui, c'est ça. On va refaire le Grand Prix, Gilles, tout à fait avec plaisir.
Exactement. Alors, au menu du jour, on va revenir sur la 5e place de Lewis Hamilton après une décision contestée par le pilote lui-même de changer de pneu à moins de 10 tours de l'arrivée. Red Bull, 2e et 3e avec Verstappen et Perez. L'équipe autrichienne joue à qui perd gagne, car le Néerlandais reprend la tête du championnat en quittant la Turquie. Et puis, on s'attardera sur la bagarre pour la 3e place au classement des constructeurs entre McLaren et Ferrari, qui ne se lâchent pas. Et pourtant, c'est loin d'être parfait dans un camp comme dans l'autre. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles et puis aussi à vous abonner. Et de cette manière, vous recevrez les nouveaux épisodes directement sur votre smartphone. On débute donc les fous du volant aujourd'hui avec Lewis Hamilton. Le mauvais plan pour le Britannique qui donc a terminé 5e. Mais avant ça, Stéphane, je crois qu'on est quand même obligé de parler de la victoire de Valtteri Bottas et on va presque même rappeler que c'est Valtteri Bottas qui a remporté ce Grand Prix de Turquie. C'est une information qui passe absolument sous les radars. C'est totalement injuste pour le Finlandais, mais c'est comme ça. Et c'est même plus qu'une simple victoire, hein, fut-elle furtive, cette victoire, parce que la victoire et le meilleur tour en course, eh ben, ça n'est arrivé que deux fois auparavant cette saison. Valtteri Bottas le réalise donc pour la 3e fois cette année. Jusque-là, Verstappen au Grand Prix de France et au Grand Prix d'Autriche l'avait réalisé. Et encore, on ne sait même pas si on doit lui ajouter la pole, Stéphane, parce qu'il y a eu aussi une histoire autour de l'attribution de cette pole. C'est Lewis Hamilton qui a fait le meilleur chrono de la Q3. Mais ayant changé son moteur, ce qui lui a valu de partir 11e sur la grille, il y a eu une espèce d'imbroglio samedi.
Il s'est étonné en conférence de presse de ne pas avoir le bénéfice de cette 102e pole position. Verstappen est à côté de lui, il dit « Mais oui, bien sûr, c'est à toi que revient cette pole position. » Et puis après, renseignement pris, on a dit à Hamilton que non, c'était bien Bottas qui avait la pole position. Donc Verstappen a dit il faut peut-être changer le règlement. Alors, bon, Verstappen et le règlement, on sait que ça fait deux. Et en l'occurrence, là, il avait tort, tu l'as bien dit, Gilles. Hamilton avait fait sa pole position avec un moteur hors quota réglementaire, c'est-à-dire quelque part qui était illégal, entre guillemets. Ça lui donnait un avantage déloyal par rapport aux autres. Et donc, il ne bénéficie pas déjà de la pole position. On le rappelle, c'est une place en fait physique sur la grille de départ le dimanche. Et il n'en bénéficie pas non plus dans les statistiques, ce qui est tout à fait normal. Et c'est d'ailleurs la deuxième fois que ça lui arrive, puisqu'il avait perdu la pole aussi à Montmélo en 2012 sur une question de réservoir qui contenait pas un échantillon suffisant d'essence pour une analyse après la qualif. Et on lui a dit, comme on ne peut pas faire l'analyse de ton essence pour voir si elle est conforme, on te rétrograde en dernière position. Et c'est Maldonado qui avait eu la pole.
Alors ça, c'était un détail, hein, l'histoire de la pole, parce que de toute façon, il n'y a même pas de points qui y sont attribués. On va revenir sur le déroulement de ce Grand Prix de Turquie. Lewis Hamilton en 3e position. Tout le monde est en pneu mixte. Son équipe l'appelle à plusieurs reprises pour rentrer au stand pour changer de pneu. Et lui ne veut pas, dans un premier temps. Il va repousser plusieurs convocations, on va dire comme ça, par son équipe. Finalement, je crois que c'est à 7 tours de l'arrivée qu'il décide d'obéir. Il va perdre 2 places sans jamais pouvoir les rattraper. Alors là, je m'adresse à ceux qui nous regardent ou à ceux qui nous écoutent sur le podcast. Mais en préparant ce podcast, je me suis dit que c'était quand même étonnant de la part de Mercedes de ne pas faire confiance à un septuple champion du monde. Et puis, j'ai lu l'article que tu as écrit sur eurosport.fr, et là, j'ai compris qu'on n'avait pas du tout la même lecture de cet événement, toi et moi, Stéphane, parce que pour toi, Lewis Hamilton, il a un petit peu baladé Mercedes pendant 11 tours.
Alors oui, Gilles, moi je trouve que la responsabilité incombe plus à Hamilton. C'est lui qui a poussé finalement Mercedes à le suivre dans sa prise de risque. Il l'a dit, moi j'aime prendre des risques. Et en fait, ce qu'il a un petit peu mis sur une fausse piste, c'est qu'il était un petit peu obsédé par la victoire, par un gros coup. Et il voulait prendre encore un an après sa démonstration à Istanbul, il voulait prendre tout le monde à contre-pied, encore une fois, bluffer tout le monde. Et il voulait rester en piste. C'était pas tellement réaliste. Alors, dans le circuit de décision, comment il s'organise dans une écurie, c'est très simple. Il y a les stratégistes qui parlent déjà de ça avant, en briefing, qui donnent les différentes possibilités. Tout le monde est au courant, les pilotes, tout le monde écoute bien. Et puis, on essaie d'appliquer ça le jour de la course. Sauf que là, il y avait pas de, il fallait faire du live. Hein. Et le stratégiste James Wolff présente en fait les différentes possibilités et fait des recommandations. Et il faut savoir que c'est Toto Wolff qui a le final cut là-dessus. Rien ne se fait sans l'accord du boss, voilà, tout simplement. Et une fois que le boss a pris la décision, ça redescend au niveau de l'ingénieur de course du pilote qui prévient son pilote en disant « il faut rentrer ». Et on a entendu Bono crier « box, box, box » au 40e tour. Verstappen s'est arrêté au 37e tour, Bottas au 38e, c'était assez raisonnable. Et puis le podium était en vue à ce niveau-là. Et puis c'est là qu'Hamilton a dit « attendez, mes pneus sont encore bons ». Alors c'était tenable pendant 2, 3, 4 tours. Et puis à un moment où les courbes de performance se sont quand même croisées. Et c'est là où j'ai trouvé qu'il avait un petit peu de mauvaise foi, parce qu'il a dit « on faisait rentrer, on faisait passer les pneus intermédiaires tout neufs ». On savait qu'on allait avoir du grainage et que les pneus ne seraient pas compétitifs. Mais il faut attendre ça, attendre que cette petite pellicule qui est sur les pneus et qu'il fait rouler sous lui-même, qui amoindrit son grip, en fait, disparaisse. On la nettoie, cette pellicule. Alors, ça dure 5-6 tours, je ne sais pas, peut-être un petit peu plus. Mais il y avait ensuite l'espoir vraiment chez ceux qui avaient passé ces pneus neufs de redevenir d'un seul coup compétitifs. C'est exactement ce qui s'est passé. Et quand Hamilton a enfin accepté de rentrer au stand au 51e tour, il avait 8 boucles à faire. Et là, c'était fini parce qu'il a passé son temps à essayer de se débarrasser de son grainage. Il n'y est pas parvenu.
Si tu veux mon sentiment, moi, j'ai quand même l'impression que la bonne intuition qu'avait eu Lewis Hamilton en Russie, de refuser le premier appel de son équipe et qui lui avait finalement réussi par rapport à Lando Norris, eh bien, s'est retourné contre Hamilton et contre Mercedes. Moi, je suis un petit peu surpris quand même qu'il y ait de la mauvaise foi du côté de Lewis Hamilton sur ce coup-là. Là, je crois que c'est incontestable. En revanche, honnêtement, j'ai pas compris. À un moment, il aurait peut-être fallu que Mercedes lâche et laisse faire. On a un pilote qui est 7 fois champion du monde, qui a gagné 100 grands prix. C'est à lui de prendre ses responsabilités. On lui a dit 3, 4, je pense même un petit peu plus que ça, 3, 4 fois de rentrer au stand. Il dit non, je vais aller au bout avec ses pneus. À un moment, je pense que le maître à bord, c'est celui qui tient le volant. Et c'est l'erreur, elle n'est pas de ne pas être rentré. L'erreur, elle est d'être rentré trop tard. Et ensuite, une fois que le pari est passé, une fois que le train de cette possibilité de rentrer ou pas est passé, il fallait rester effectivement en piste, même si on a vu l'état des pneus de Esteban Ocon à l'arrivée, puisque finalement, il y a un pilote qui a fait tout le Grand Prix avec le même train de pneus, c'est Esteban Ocon. Les pneus, vraiment, à la limite, en fait, d'exploser carrément. Je pense que la Mercedes conserve un petit peu mieux ses pneus quand même que l'Alpine. Je crois qu'en fait, le choix, il a été fait. Il y a eu deux erreurs, ne pas rentrer tout de suite et rentrer après, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire.
Oui, pour moi, en fait, apparemment, Hamilton est rentré 5 tours trop tard, mais il fallait le faire. De toute façon, la cote d'alerte, ça commençait à être le tournant du 46-47e tour. Si on regarde bien, Hamilton avait 3 secondes 3 de retard sur Verstappen. C'était tenable au 46e tour. 3 tours plus tard, son retard a doublé. Il passe à 6 secondes 8. Et pendant ce temps-là, Leclerc est en train de s'écrouler en tête de la course. Il se fait déborder facilement par Bottas. Et c'est là qu'on s'aperçoit que ses pneus sont fichus. Il le disait depuis 2-3 tours, ça n'allait plus. Et c'est là où, en fait, il fallait rentrer. Et Mercedes a relancé Hamilton. Il a dit, mais non, mais à cet instant-là, il a dit, mes pneus sont bons. Alors, on pouvait le croire, c'est Lewis Hamilton. Voilà. Sauf qu'après, il a été démenti par ce qui s'est passé. Et je dirais que ne rester en piste, c'était un très grand risque. Et Ocon l'a fait et Hamilton a dit « Ah bon, alors s'il l'a fait, c'est que moi je pouvais le faire ». Ocon et Hamilton n'ont pas piloté exactement dans la même galaxie. Si tu regardes bien les temps autour, Ocon a fait son meilleur temps presque à 2 secondes du meilleur chrono d'Hamilton sur cette course. À 6 tours de la fin, Ocon se fait dépasser par Stroll. À l'arrivée, il est 17 secondes derrière, donc il perd 3 secondes par tour, il s'écroule complètement. Donc là, c'était la promesse pour Hamilton de terminer 7e ou 8e. Donc il fallait rentrer pour sauver ce qui était possible, rester devant Gasly, ce qu'il a fait. C'est un moindre mal, mais je dirais que oui, Hamilton, c'est un flambeur. Il aime prendre des risques. Il a embarqué Mercedes sur une fausse piste. Et quand Toto Wolff dit « on gagne ensemble et on perd ensemble », c'est vrai, puisque ce que je t'ai dit au début, quand on a évoqué cette question-là, Gilles, c'est que Toto Wolff, c'est lui qui a le final cut, donc c'est lui qui était d'accord pour ça.
Alors, c'est d'autant plus regrettable, hein, finalement, ce raté, que la W12 semblait souveraine, hein, sur cette piste. On l'a vu avec Valtteri Bottas. On est quand même obligé, Stéphane, d'élargir un petit peu parce que si Lewis Hamilton est parti 11e sur la grille, c'est parce qu'on a décidé de changer le moteur de la Mercedes. On a quand même des soucis du côté de Mercedes et on a changé que le moteur, alors que l'habitude, c'est souvent de changer également les périphériques, hein, le MGUK, le MGUH, parce qu'une fois qu'on est parti dans les pénalités, voilà le turbo. Là, cette fois, on a changé que le bloc. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pris que, entre guillemets, 10 places de pénalité. Et on reste un petit peu inquiet du côté de Mercedes.
Alors, on reste inquiet quant à la fiabilité chez Mercedes. Toto Wolff l'a dit très clairement à plusieurs reprises. Et ça, c'est un petit peu bizarre parce qu'on ne confie pas ses faiblesses, normalement, même à l'adversaire, en disant... on a changé le V6, donc le bloc principal, la pièce maîtresse du moteur, mais on a des doutes sur le reste. Et en fait, on a changé le moteur, il l'avait expliqué, parce qu'au banc, ils entendent des bruits bizarres, étranges, dont ils ne connaissent pas la provenance. Et il a dit, on a déjà eu des choses comme ça par le passé et ça nous a coûté cher. Et l'obsession, vraiment, c'est d'éviter un abandon. Et je dirais que si les investigations continuent chez Mercedes, c'est qu'on n'est pas tranquille, c'est qu'on pense peut-être aussi devoir changer d'autres éléments soumis à pénalité plus tard dans la saison, donc qui vaudront 5 places de pénalité sur une grille s'il faut changer un turbo, quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est un petit appel aussi déguisé à la FIA en disant « on a peut-être un problème de fiabilité et là on sait qu'il peut y avoir une dérogation pour changer quelque chose dans le moteur de sorte d'assurer la fiabilité. » Et c'est en quelque sorte ce que demande, je pense, indirectement un petit peu Mercedes, même si avec 6 grands prix et quelques semaines encore avant la fin du championnat, il serait un petit peu difficile de faire un développement par rapport à ça. Mais si tu identifies une faiblesse, tu peux peut-être changer la pièce et demander ensuite une dérogation pour finir la saison safe. C'est peut-être un petit peu sans filigrane ce que demande Mercedes.
Ça ne tente rien de tenter le coup. On sait bien que Toto Wolff est un éminent stratège, aussi en dehors des stratégies de course, mais sur les stratégies politiques, avec les instances sportives. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais clairement, là, pour Hamilton, qui perd la première place au championnat, je ne sais même pas si on l'a évoqué, hein, il se retrouve désormais à 6 points de Max Verstappen. Petite soupe à la grimace, hein. Il y a eu cette conclusion après le Grand Prix où il a dit « on s'est parlé avec l'équipe, mais il n'y a rien à dire ». Ah, bon, ok.
Tout à fait. Et Gilles, tu vois, cet entêtement aussi à rester en piste, ça le prive peut-être d'une tentative contre le meilleur tour en course pour aller chercher le point du meilleur tour en course. On sait que ça a été une bataille féroce cette saison pour ce point-là. Et comme il passait son temps à essayer de se débarrasser de son grainage, c'est Bottas qui l'a signé. Et facilement, en plus, 3 dixièmes. plus rapide que Verstappen, ça veut vraiment dire qu'il y avait de la place aussi pour ça, et c'est aussi un autre dégât collatéral de la stratégie d'Hamilton dans cette histoire.
Deuxième sujet qu'on voulait évoquer dans les fous du volant aujourd'hui, c'est Red Bull qui joue un petit peu à qui perd gagne. Les Red Bull qui n'étaient pas au rythme des Mercedes en Turquie. Verstappen termine deuxième, Perez sur la troisième marche du podium, et c'était honnêtement le meilleur résultat possible. Peut-être en un mot, Stéphane, la RB16B, donc la voiture exploitée par Verstappen et Perez, elle n'était pas dans le coup ce week-end.
C'est la première fois que ça arrive cette année. Elle était larguée sur un tour, en rythme de course, donc sur la longueur d'un relais, sur le sec, sur le mouillé. Verstappen a dit vraiment qu'il était limité, qu'il ne pouvait pas aller chercher la Mercedes. Perez a dit qu'il n'était pas à l'aise au volant de cette voiture. Alors que Red Bull avait annoncé que Istanbul était un circuit fort pour sa voiture. Alors ça, c'est extraordinaire, puisque Marco nous avait vraiment dit que les trois Grands Prix à venir, à commencer par Istanbul, c'était l'affaire de Red Bull. Et Horner a rétro-pédalé après le week-end en disant que non, c'était pas comme ça et que c'est en fait un mauvais circuit. Donc, Si tu as bien noté, Gilles, d'ailleurs, on n'a pas tellement entendu Helmut Marko ce week-end. Hein, il avait promis monts et merveilles. Ça n'a pas été le cas, même si son poulain a repris la tête du championnat.
Alors, Verstappen, justement, on en parle de Max Verstappen. C'est la deuxième fois de suite qu'il termine deuxième. Et c'est la deuxième fois consécutivement qu'il est content de terminer deuxième. C'est probablement une nouvelle manifestation du changement de logiciel, en quelque sorte, qui s'est opéré chez Max Verstappen. Il est passé en mode titrable, si tu peux me permettre cette expression. Et c'est sans doute le changement le plus important chez Red Bull entre l'année dernière et cette année. C'est la première fois cette saison qu'on a trois Grands Prix sans victoire de Max Verstappen. Et pourtant, sur la cérémonie du podium, après le Grand Prix, il avait un énorme sourire. Tu le vois, ça, cette transformation, tu la vois, cette transformation d'un pilote qui se dit d'un seul coup, il faut prendre les points.
Oui, tout à fait. C'est assez étrange. On a parlé du meilleur tour en course. Il ne l'a pas chassé. Il a terminé à 3 dixièmes de Bottas. Il s'est installé tout de suite à la deuxième place et puis s'en est contenté. Son obsession, c'était que la performance de ses pneus ne s'écroule pas, de ne pas avoir un incident ou quelque chose. Il fallait aussi gérer le trafic. Il n'y avait rien de facile. L'année dernière aussi, il avait été mauvais très clairement sur ce circuit-là. Il avait surattaqué, ça lui avait beaucoup coûté. Et là, il était en mode calme, c'est vrai. Et donc en mode potentiellement titrable, comme tu l'as dit, Gilles. C'est un Grand Prix où il a laissé passer l'orage, où la Red Bull était vraiment inférieure à la Mercedes. C'est une énorme surprise. Mais il a fait le dos rond et il repart avec 6 points d'avance. Comme tu l'as dit au championnat, l'opération est bénéficiaire.
Si on parle justement de... On attendait des Red Bull très fortes en Turquie, elles ne l'ont pas été. Je trouve ça un petit peu inquiétant, moi, pour Red Bull quand même, parce que ça veut dire que tous les autres circuits sur lesquels Christian Horner et ses hommes pensent avoir l'ascendant, en fait, on n'en sait plus trop rien. Et je voudrais aussi t'entendre sur le fait que Red Bull a quand même dit très très haut et très très fort, de manière très ostensible, que Mercedes avait fait des progrès surprenants en termes de moteur. On est inquiet, agacé, je ne sais pas comment tu lis tout ça, toi.
Perez l'a constaté en fait dans sa bagarre directe avec Hamilton. Il a dit avant, ils étaient obligés de décharger les ailerons pour avoir la même VMAX que nous. Maintenant, ils embarquent des gros ailerons, aussi gros que le nôtre. Et on a pris du retard, et en fait, ça vient du moteur. Et Christian Horner a dit très clairement, ils ont fait des progrès quand même surprenants par rapport à ce moteur, donc ce numéro 4 qu'ils ont installé dans la voiture d'Hamilton, et qu'ils avaient fait aussi la même chose par rapport à Bottas précédemment. Et donc ça veut dire qu'il y a du développement, on apporte quelques améliorations, c'est toujours à des visées de fiabilité, mais il en ressort un petit peu plus de puissance. Et ça veut dire que le curseur continue de se déplacer dans ce duel entre Mercedes et Red Bull sur le terrain de la puissance, le terrain des appuis. Là, c'était aussi l'adhérence. Les organisateurs avaient nettoyé énormément le bitume qui donnait beaucoup de grip. Eh bien, ça n'a pas du tout fait les affaires de Red Bull. Alors, Red Bull nous dit maintenant qu'ils vont être très, très bien à Austin et ensuite à Mexico. Rien n'est moins sûr.
On verra. Bon, alors, il faut dire aussi que le circuit de ce Grand Prix de Turquie Finalement, c'était plus du tout le même cette année par rapport à l'année dernière. Il y a eu un tel traitement pour renforcer l'adhérence que fatalement, toutes les simulations, toutes les projections qu'on avait faites, dès les premiers tours de roue, lors de la première séance d'essai libre, on a très vite compris que tout ça, ça avait changé, que c'était même plus le même circuit. En fait, c'est le même dessin, mais le circuit avait totalement changé. Tu as évoqué Sergio Pérez. Eh bien, écoutez, Sergio Pérez, il a fait le job ce week-end. Il était sur le podium. J'ai envie de dire, Sergio Pérez était de retour sur les radars ce week-end en Turquie. Il a inscrit 15 points dimanche, alors qu'il n'en avait marqué que 16 sur les 6 derniers Grands Prix précédents. Il était aux abonnés absents et il a fait son retour effectivement dans le giron des pilotes qui comptent, qui peuvent aider Red Bull, parce que non seulement il marque les points de la troisième place, mais en plus il a sacrément mis le bazar dans la stratégie de Lewis Hamilton en résistant aux Britanniques très très longtemps. Rôle que finalement Bottas, par rapport à Verstappen en Russie, n'avait pas voulu avoir, et je trouve que c'est plutôt en l'honneur du Finlandais. Mais il était là, Pérez.
Alors il était là, c'est lui qui a accéléré en fait l'usure des pneumatiques d'Hamilton, c'était son job pour une fois. Je crois que ça faisait depuis le Castellet qui n'avait pas fait un podium. Mais Gilles, il était encore un petit peu en mode poissard parce qu'il était avec, on va dire, l'ancien pit crew de Red Bull. Tu sais, ils avaient eu des problèmes à Monza et ensuite à Sochi, à Monza avec Verstappen, le fameux pit stop catastrophique qui avait mené à l'accrochage, et puis avec Pérez en Russie. Et là, en fait, Red Bull a réussi le tour de force de faire pour Verstappen un arrêt au stand en 2.15, donc ce qui est quand même très précieux, toujours, hein. Et ils ont servi Pérez en 2.56. Ça veut dire que là, vraiment, il y a un gap et qu'on ne s'explique pas vraiment. On a l'impression qu'ils sont au taquet, en fait, pour Verstappen et que Pérez est encore l'éternel numéro 2, je dirais. Pour une fois, il a fait le job. Normalement, il devrait être là à longueur d'année et on s'étonne presque aujourd'hui qu'il soit là et qu'il soit capable de le faire. C'était nécessaire, mais Red Bull a perdu 3 points quand même au championnat constructeur par rapport à Mercedes. Qui en a 36 d'avance, je crois. Donc Red Bull est un petit peu en retard à ce niveau-là et c'est la faute de Pérez, on va dire, tout simplement, même s'il a eu un petit peu de malchance.
Exactement. Alors, au-delà de Pérez, on a eu aussi des grosses résistances hein, de Yuki Tsunoda, qui ne s'est absolument pas caché d'avoir fait du zèle face à Lewis Hamilton pour favoriser son camp. Et puis Pierre Gasly aussi, hein, qui a été offensif par rapport à Hamilton. Bon, après, il faut bien comprendre, hein, chacun joue sa place. On n'est pas forcé non plus de laisser passer parce que c'est Lewis Hamilton.
Verstappen a vraiment remercié, on l'a vu, Pérez à l'arrivée du Grand Prix pour avoir fait le travail de sape, on va dire. C'est comme ça. Il y a des fois, il y a des phases de course où on en passe, un pilote en passe par là. Et Tsunoda était fier de dire ben moi, j'aurais aimé le bloquer 20 tours, Hamilton, je l'ai bloqué 8 tours, c'est pas suffisant. Je veux vraiment que Max soit champion du monde. Bon, là, au moins, on est au courant. C'est la première fois aussi qu'on le voit vraiment en situation d'avoir un impact chez AlphaTauri et au-delà, même chez Red Bull. Donc, ça, c'est vraiment très appréciable. Gasly, lui, il a été coriace comme d'habitude en piste, il a fait le job. Tout simplement, mais c'est peut-être un nouveau facteur aussi qui rentre en ligne de compte pour la fin de saison. Je ne sais pas si Bottas sera aussi en forme, mais si Tsunoda est aussi là pour bloquer un petit peu dans le trafic, etc., ça peut jouer aussi pour Verstappen. On ne sait pas finalement où se situera vraiment le point de bascule dans ce championnat, et c'est peut-être sur un fait comme ça qu'on ignore encore aujourd'hui, sur les stratégies, sur la puissance moteur, sur l'aéro, on sait pas encore, mais tout ça est passionnant.
Ouais, clairement, il reste 6 grands prix hein, au moment où on enregistre cette émission, Stéphane, 6 grands prix, et c'est quand même très très compliqué de savoir comment vont tourner les débats, mais clairement, là, dans le clan de chez Red Bull, si Pérez commence à retrouver de la performance et si Tsunoda vient s'en mêler aussi, on va avoir l'avantage du nombre. Ça veut dire qu'on a éventuellement 4 voitures, 4 possibilités de jouer des stratégies contre 2 à Mercedes.
C'est tout à fait ça. Alors Gilles, tu l'as dit, on ne sait pas ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison, et spécialement les 3 derniers Grands Prix. Là, même Horner, chez Red Bull, est incapable de dire si la Mercedes ou la Red Bull aura l'avantage sur ces circuits-là. On sait que Austin arrive et que là, normalement, c'est le terrain de jeu d'Hamilton, mais on va peut-être vers une grosse surprise.
Ouais, les trois derniers Grands Prix, ça sera le Qatar, hein, donc, qui a été intégré au calendrier il y a quelques semaines, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi. Voilà, la seule des trois dernières destinations que l'on connaît. Eh ben, on va encore se régaler un bon moment. Le dernier acte des fous du volant, pour lequel, avec Stéphane, on va s'intéresser à la bagarre pour la troisième place du classement des constructeurs. On y revient régulièrement, hein, depuis le début de la saison, parce que McLaren et Ferrari ne se lâchent décidément pas. Ce week-end, Charles Leclerc a terminé quatrième après avoir tenté le coup pour aller chercher une place sur le podium, ou même, je pense qu'à un moment, le Monégasque a pensé pouvoir s'imposer. Carlos Sainz, lui, est remonté de la dernière ligne jusqu'à la huitième place à l'arrivée. Pendant ce temps-là, Lando Norris pour McLaren a terminé septième, et Daniel Ricciardo, qui était dernier sur la grille aux côtés de Carlos Sainz, lui, n'a pas réussi à revenir dans les points. Il a terminé 13e. Stéphane, on évoque cette bagarre pour la troisième place au classement des constructeurs parce que, honnêtement, après le doublé des McLaren à Monza, on pensait que McLaren était sur orbite pour aller chercher cette troisième place. Surtout que, pendant ce temps-là, la Scuderia, on le savait, allait changer coup sur coup de moteur pour Charles Leclerc, puis pour Carlos Sainz. Et finalement, et ben, lors de ces deux derniers Grands Prix, Ferrari a repris du terrain à l'équipe de Zak Brown. Il n'y a plus désormais que 7 points et demi d'écart entre McLaren et Ferrari. On a envie de dire que le nouvel ensemble, la récupération et restitution d'énergie, hein, du nouveau moteur de la Ferrari, tout ça c'est finalement validé.
Alors c'est validé, oui, ils avaient eu quelques problèmes de mise au point à Sochi, ils étaient un petit peu inquiets, là ils sont un petit peu plus rassurés. Un petit peu plus de puissance. C'est un moteur qui préfigure celui de 2022. Donc, ils sont en train de mettre les pièces en fait du moteur 2022. Et une fois que ce sera fait, il sera en service pour l'an prochain. Mais je dirais quand même que là, cette quatrième place, ça aurait pu même être une troisième place de Charles Leclerc. Elle revient d'abord, le crédit en revient vraiment au Monégasque, qui s'est retrouvé en fait sur une piste très très adhérente le vendredi. On l'a dit, hein, vraiment l'asphalte avait été nettoyé après toutes les critiques de l'année dernière. Et lui, Charles Leclerc, il a un style très survireur, c'est-à-dire qu'il veut un train avant fort avec beaucoup d'adhérence. Et il a dit, moi je joue avec ma voiture vraiment, et je fais basculer, je fais pivoter le train arrière comme je veux. Donc là, il s'amusait, là vraiment. Et on a cru que ces deuxième et troisième temps vendredi, c'était un petit peu du bluff. Bah, pas du tout, ça fait quatrième sur la grille, pas très loin de la pole position. Et puis en course, c'est du sérieux aussi. Et c'est là où il a commencé à se sentir mal pendant la course, c'est que il manquait de train avant, donc il n'aimait pas du tout. Il a commencé à glisser, c'est pour ça aussi qu'il est rentré. Mais il avait fait un autre pari technique qui était absolument audacieux, c'est qu'il avait déchargé vraiment sa voiture. Pour espérer, enfin, je pense qu'il était plus dans l'optique d'une course mixte, qui ne s'attendait pas à ce que ce soit complètement mouillé, mais il a vraiment survécu, il a dit qu'il n'était pas à l'aise, mais il s'en est sorti. C'est là quand même, je trouve, où on retrouve un petit peu le cador qu'ils ont chez Ferrari, et ce que ne fait pas exactement Sainz, c'est que là, il fallait faire un petit exploit quand même, et Charles Leclerc a vraiment, vraiment été... un super pilote dimanche pour sortir ça, pour sortir une quatrième place devant Hamilton, juste derrière les Red Bull, c'est quand même pas rien.
Oui, clairement. Et du coup, Ferrari, avec ses deux derniers Grands Prix là où tour à tour, Charles Leclerc puis Carlos Sainz sont partis du fond de la grille, Ferrari a inscrit 31 points sur ces deux derniers, Grands Prix, et c'est quand même 31 points qui vont s'avérer précieux parce que il y a quand même eu des ratés. Hein. On n'a pas su aiguiller. Alors on a beaucoup parlé de la stratégie de Mercedes et de Hamilton. On n'a pas su du tout aiguiller Charles Leclerc chez Ferrari. En gros, à un moment, il a demandé un petit peu d'aide à son équipe en lui disant « Mais là, si je m'arrête, qu'est-ce qu'on peut faire ?»« Ah bah, si tu restes devant, on gagne. » »« Oui, merci, c'est le principe d'une course, en fait. » Je sais pas si tu as eu la même impression que moi, mais en fait, on savait pas quoi lui dire. C'était en gros « Bah, vas-y, choisis, débrouille-toi. Ouais. »
Je ne sais pas s'il aura le même ingénieur l'an prochain, parce que c'est vrai que parfois... Il a l'impression de jeter un petit peu une bouteille à la mer et on lui fait une réponse qui est dans un entre-deux. Ferrari s'était planté aussi en Russie en le gardant en piste alors qu'il fallait rentrer. Donc c'est quand même une deuxième mauvaise pioche de suite de la part de Ferrari, donc sur le muret et puis aussi devant le garage, puisqu'on lui fait quand même un arrêt en 3 secondes 1. Qui fait aujourd'hui des arrêts en 3 secondes 1 il y a 5 ans, il y a 10 ans peut-être, mais là Ferrari, ils n'étaient quand même pas au top. Et puis pour Sainz, c'est 8 secondes 1 aussi, alors là c'était complètement raté. C'est encore une cata. Là-dessus, Mattia Binotto a dit c'était les quatre roues étaient changées et on a eu un problème en fait de commande manuelle du feu vert pour que Sainz puisse redémarrer et repartir de son emplacement. Ça fait rêver quand même. En 2021, à l'heure d'une technologie aboutie en Formule 1, on a des problèmes pour allumer un voyant vert dans les stands. Ça fait pas très sérieux. Je dirais que c'est un petit peu c'est un petit peu la rengaine. Chez Ferrari, c'est comme ça. Alors, s'ils ont tous les problèmes cette année et que l'an prochain, tout est au point, les tifosi seront heureux. Mais on a l'impression que de temps en temps, ils sont un petit peu en dedans encore.
Alors, je vais te dire le fond de ma pensée. Bon, cette histoire de... En fait, c'est une nouvelle procédure. Hein. Dans les stands, désormais, les mécanos, une fois qu'ils ont vissé l'écrou de la roue, doivent appuyer sur un bouton pour valider en fait leur opération. Voilà. Et quand les quatre mécaniciens ont fait ça, et ça donne le feu vert. Bon, il y a encore... C'est un truc bête comme chou. Hein. Mais bon, il y a encore un problème de ce côté-là. Ça va être réglé rapidement. N'empêche que c'est quand même très, très intéressant de voir que... Moi, j'ai le sentiment que Ferrari, en intégrant des éléments moteurs là, de l'année prochaine, est en train de prendre un train d'avance, pardon, sur le reste du peloton. Et pendant ce temps-là, ils continuent de lutter face à McLaren pour essayer d'arracher cette troisième place au classement des constructeurs. Une équipe McLaren qui me donne, moi, le sentiment d'être par intermittence. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, mais j'ai relevé quand même une statistique. McLaren avait marqué 45 points lors du Grand Prix de Monza avec le doublé, la victoire de Ricciardo, la deuxième place de Norris, le meilleur tour en course de Ricciardo et aussi le point ramené par l'Australien lors de la course de qualification. 45 points sur un week-end à Monza. Garde ce chiffre en tête. Si tu enlèves Monza, sur les 5 autres derniers Grands Prix, McLaren a marqué 32 points. 32 points en 5 Grands Prix. Autrement dit, on a le sentiment que McLaren est en train de prendre l'eau et qu'il y a le résultat de Monza qui lui permet pour l'instant d'avoir le nez un petit peu au-dessus de la ligne de flottaison. Mais je trouve ça assez inquiétant en fait.
Alors, il faut le voir par rapport à ce que fait aussi Ferrari. Je te dirais, Gilles, que Ferrari a deux pilotes qui sont vraiment complémentaires, ce qui n'est pas du tout le cas de McLaren. Alors, pour revenir à ce qui s'était passé en Russie, en fait, Ferrari avait dit on a laissé Leclerc un tour de plus en piste parce qu'on privilégiait Sainz et on ne voulait pas qu'il se gêne dans la voie des stands. Et là, ce week-end, c'était Leclerc qui avait la priorité et c'était Sainz qui se mettait au service de Leclerc. On l'a vu, il donne l'aspi à Leclerc pour lui permettre d'arracher une place en Q3. Et puis dans tout ça, en Q1, il avait sorti en fait Ricciardo de la zone des qualifiés. Et Ricciardo, après, avait changé de moteur, tout simplement. Donc, en fait, indirectement, Sainz avait éliminé, tout simplement, Ricciardo dans cette course. C'est assez incroyable. Donc, c'est quand même bien joué. Sainz prend des pénalités, mais il arrive à influencer quand même cette bataille entre Ferrari et McLaren. Et on sent que chez McLaren, ils ne peuvent compter que sur Norris. Et encore, Norris. Il a dit ce week-end, la voiture n'encaisse pas bien sur cette piste-là les pneus tendres. Il n'y a rien à faire avec la façon dont il faut la piloter. Donc là, c'était perdu d'avance dès le vendredi. Il savait qu'il faisait un trait dessus. Bon, je crois qu'il arrache quand même P7. Ricciardo est perdu dans cette histoire. Il doit être 14e ou 15e. Ils sont nulle part. Et la voiture n'est pas très polyvalente. Ils ont réussi un gros coup à Monza parce que c'est un circuit de vitesse. Ils ont la puissance du moteur Ferrari. Mais quand il faut faire fonctionner la voiture vraiment sur des longs appuis, dans des virages à moyenne ou haute vitesse, là, il n'y a plus personne. Donc, c'est là-dessus qu'ils doivent travailler. Ils le savent. Maintenant, c'est que du réglage parce qu'il n'y a plus personne qui fait du développement. Mais on sent finalement que Ferrari a un package un petit peu plus complet. pour la fin de la saison. Et je mettrai une petite pièce sur eux pour la troisième place au championnat, même si McLaren a passé la quasi-totalité du championnat à la troisième place.
Oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec toi. Je le sens un petit peu mieux. La dynamique, en tout cas, elle est du côté de la Scuderia. Après, voilà, on sait bien hein, qu'un Daniel Ricciardo, s'il y a une possibilité, il l'a déjà fait, sera là. Mais c'est quand même assez étonnant hein, de voir quand même à quel point on a du mal. On a l'impression que McLaren a un chewing-gum collé à la basket. Et le chewing-gum, c'est la Scuderia. Et qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Alors que, honnêtement, si tu fais pas trop attention au point, tu dis non, mais ils sont largement devant. Eh ben non. Pas tant que ça, ça doit commencer à les agacer quand même. Et la différence entre la troisième et la quatrième place au championnat des constructeurs, elle se chiffre en millions de dollars.
Hein. Oui, et dans cette histoire aussi, on peut être un petit peu cocardier. On peut souligner que Mattia Binotto a apprécié encore une fois le travail de Laurent Mekies. Puisque Mattia Binotto était resté à Maranello pour suivre le développement de la voiture, là on est vraiment dans les dernières semaines de développement de la monoplace 2022, et il avait délégué toutes les décisions en fait à Laurent Mekies sur le terrain, et il y a eu des choix quand même assez audacieux, on le redit vraiment, peu d'appui sur la voiture de Leclerc, un petit couac au niveau de la stratégie, peut-être le podium qui était accessible, mais à l'arrivée ça fait quand même des gros points. Et une lutte qui est toujours aussi indécise au championnat. Et Mattia Binotto sera encore absent. Il a dit deux grands prix d'ici la fin de la saison, Mexique et Brésil, je crois. Donc, c'est peut-être Laurent Mekies qui portera chance aussi à la Scuderia en la guidant parfaitement.
Ben écoute, on lui souhaite bonne chance aux Français. Voilà donc pour ce que l'on pouvait dire après ce Grand Prix de Turquie. La prochaine étape, ça sera le Grand Prix des États-Unis hein, sur le circuit des Amériques à Austin, au Texas. La course aura lieu le dimanche 24 octobre. Ce podcast qui est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast et par Apple Podcast. Donnez-nous 5 étoiles si vous avez apprécié et puis abonnez-vous. Comme ça, au prochain épisode, il arrivera directement sur votre smartphone. Je crois qu'on a tout dit, Stéphane. Il ne nous reste plus qu'à donner rendez-vous à ceux qui nous écoutent ou à ceux qui nous regardent la semaine prochaine. Et puis d'ici là,
coupe le contact.
Coupe le contact.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.